A strong NATO is good for Europe, but it's also good for America.
It's very good for America. Yeah. Essential for America. Yeah.
Donc, ça, c'est une citation qui dit « L'OTAN, c'est bon pour les États-Unis, mais c'est aussi bon pour l'Europe ». Qui disait ça?
C'était le secrétaire général de l'OTAN qui était flanqué du président américain Joe Biden. Biden qui a répondu à ça en disant « Effectivement, c'est pas juste important, c'est essentiel pour les États-Unis ». Je pense que tu vas t'entendre avec moi pour dire qu'il y avait un petit sous-titre à ça qui disait « On n'est pas d'accord avec Donald Trump ». En fait, tu sais, je dirais que même si son nom n'a jamais été prononcé, Trump était partout aujourd'hui. Parce que, premièrement, tu as eu un président américain qui est arrivé et qui a évoqué l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Là, on le rappelle, là, celui qui dit une attaque contre un membre, c'est une attaque contre tous les membres. Mmh. Il est allé dire que c'est une obligation sacrée pour les États-Unis. Il a dit que les États-Unis étaient dans l'OTAN pour rester. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Le secrétaire général de l'OTAN, l'équivalent du numéro un, si on veut, là, est allé proactivement déclarer devant les médias que les autres pays membres, ça faisait 7 ans qu'ils augmentaient à chaque année consécutivement leurs dépenses en matière de sécurité. Ça aussi, c'est une réponse implicite à Trump qui, on le rappelle, avait menacé à répétition de se retirer, de retirer les États-Unis sous prétexte que les autres pays ne faisaient pas assez, ne payaient pas, entre guillemets, leur juste part. Fait que, il y avait ça comme contraste qui était immanquable aujourd'hui.
Raphaël, on va rappeler que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce sont des pays membres, tu sais, pays d'Europe de l'Ouest surtout. Et c'était une sorte de barrière contre l'Union soviétique. Puis si les Russes attaquaient, je sais pas moi, la Finlande, la Suède, ben c'est tous les pays membres de l'OTAN qui entraient en guerre contre les Soviétiques. Et après ça, ben l'alliance a pris, disons, d'autres formes. Et Trump a toujours exprimé son dédain pour l'OTAN.
C'est ça, c'est exactement ça. Et là, la forme, tu parles de nouvelle forme, la nouvelle forme que c'est en train de prendre depuis les dernières années, je dirais surtout depuis l'arrivée de Biden, ça a été un thème très, très fort aujourd'hui, ça a été l'opposition entre, d'un côté, les autocraties, les dictatures, l'autre côté, les démocraties. Donc, on veut vraiment se servir de l'OTAN comme espèce de bouclier contre la montée de puissance dictatoriale. Puis là, pas besoin de te faire un dessin, il y en a deux. La Chine, la Russie, qui ont été sur les lèvres de tout le monde. Et au chapitre de la Chine, il y a eu ceci que j'ai trouvé très intéressant. On a accouché aujourd'hui d'une espèce de communiqué conjoint, de déclaration officielle qui qualifie la Chine, puis là j'y vais mot pour mot, là, de défi systémique. T'sais, on s'entend que c'est pas le genre d'expression que toi et moi on va utiliser à la maison à soir. Les gens ordinaires ne parlent pas comme ça.
À moins d'avoir un ado. C'est un défi systémique. Ça dure longtemps puis ça a beaucoup de ramifications.
Sais-tu quoi? Je vais arriver là dans 10 ans. J'ai déjà peur. Fait que merci de me mettre ça dans la face. Mais très sérieusement, dans le contexte d'aujourd'hui où il n'y avait pas d'adolescents impliqués, c'était du langage diplomatique. Puis, je te parlais du sous-titre tantôt. Quand tu lis entre les lignes, c'est assez clair que ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tout le monde au sein de l'OTAN qui s'entend par rapport à, en guillemets, l'ampleur de la menace qui est posée par la Chine. Les Américains, c'était vrai sous Trump, c'est certainement vrai encore sous Biden, ont une posture, veulent conserver une posture très robuste. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui sont beaucoup plus frileux par rapport à ça. Fait que, tu sais, on a pris la peine de ne pas utiliser, par exemple, des mots comme adversaire, encore moins comme ennemi. Fait que, tu sais, défi systémique, c'est le plus loin où on peut aller. Fait que, tu sais, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se demandent qu'est-ce que ça change, c'est juste du blabla. Non, justement. Ou pour moi, il y a un indicateur là-dedans, c'est que quand le temps va arriver pour Biden de prendre le téléphone et là d'aller essayer de construire une grande alliance à l'international pour imposer des mesures concrètes qui feraient mal à la dictature chinoise, écoute, les bonnes intentions vont beau avoir à être là, ça va peut-être être moins évident que ce qu'on réalise. Les tentacules chinoises sont un peu partout dans le monde.
OK, ce qui retient l'attention aussi, là, c'est qu'il y aura une rencontre là, très, très bientôt entre Vladimir Poutine et Joe Biden.
Tu dis très bientôt, c'est dans moins de 48 heures. Fait que ça va être presque tout de suite après la fin du sommet de l'OTAN. Ça va être à Genève, en Suisse. Et on se parle depuis tantôt de contraste avec Trump. Quand tu as un président américain et un président russe, de façon assez surréelle, qui sont fait des mamours pendant 4 ans, on n'aura pas ça. Ça, c'est une promesse dans 2 jours, quand Biden et Poutine vont se rencontrer. Et Poutine en est très conscient. Écoute, la game qu'il est en train de jouer présentement, c'est carrément d'insulter le président américain actuel. Il est allé, je ne sais pas si tu as vu ça, il est allé donner une entrevue aux médias américains, notamment à NBC, un des plus gros réseaux américains. Et il est allé qualifier Donald Trump de grand homme. Évidemment, une provocation. Quand on l'a questionné au sujet d'Alexei Navalny, évidemment, son plus important opposant politique en Russie, on le sait, le type est emprisonné et torturé depuis des semaines. Il y en a certains qui affirment qu'il est sur le bord de la mort. Poutine, écoute, il y a presque un semi-sourire sur le visage. Il est allé dire qu'en Russie, le président ne se mêlait pas de ces dossiers-là, ce qui est évidemment complètement risible. Bref, la raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est que quand Biden va arriver là mercredi, il va y avoir aux États-Unis, puis dans une grosse partie du monde occidental, une énorme pression, ne serait-ce que symboliquement, d'envoyer un message très ferme comme quoi l'ère Trump, c'est fini, puis là, on a un président américain qui va se tenir debout face à lui et face à la Russie. Fait qu'écoute, ça va être fascinant, cette rencontre-là.
Écoute, tantôt, quand je t'ai parlé de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, j'ai dit que la Suède et la Finlande étaient membres. Il y a un auditeur particulièrement affûté qui m'a écrit et m'a dit, écoutez, ils sont pas membres. Il y a 30 pays membres, il y a d'autres pays d'Europe du Nord, là, comme le Danemark, mais Suède et Finlande ne sont pas du lot.
Et sais-tu quoi? Il y en aura peut-être un 31e sous peu.
L'Ukraine, hein?
Oui, mais ça, c'est assez controversé parce que ce qu'on a eu aujourd'hui, ça a été vraiment une confusion. Le compte Twitter du président ukrainien est allé annoncer que l'Ukraine allait se joindre à l'OTAN. Puis écoute, ça a pris quelques minutes pour que le président américain dise non, peut-être pas aussi rapidement que ça. Il reste du travail à faire pour l'Ukraine, notamment au niveau de la lutte à la corruption avant que l'OTAN l'admette. Mais ça semble être dans les cartons. Fait que peut-être pas la Suède, mais je dirais pas certainement, mais probablement à terme l'Ukraine.
Merci, je te souhaite un bon match ce soir à 21h, mon cher Raphaël.
On se parle demain.